Bonjour, mon nom est Savannah, je suis étudiante en sciences humaines au Cégep de Saint-Jérôme. Dans le cadre de mon cours de projet d'intégration en sciences humaines, j'ai choisi le sujet de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est à propos de ça que je vais vous interviewer aujourd'hui. Est-ce que vous voulez vous présenter un petit peu?
Bonjour, je m'appelle Nicolas Fournier, je suis enseignant en histoire au Cégep de Saint-Jérôme.
Donc, ma première question, c'est comment expliquez-vous la montée au pouvoir aussi rapide d'Hitler?
En fait, c'est pas une montée qui est si rapide que ça. Hitler, c'est quand même un politicien d'expérience. Donc, Hitler se lance en politique tout de suite après la Première Guerre mondiale. Donc, il a servi dans l'armée allemande comme soldat. Dès la fin de la guerre, Hitler va se joindre à un petit groupuscule politique qui éventuellement va s'appeler le Parti nazi. Donc, on est aux alentours là, de 1919-1920. Hitler devient le chef de ce mouvement-là. Puis, pendant toutes les années 1920, début des années 1930, il y a quand même là, une lutte politique qui est soutenue. Hitler va tenter à un certain moment donné un coup d'État, il se ramasse en prison, il participe à plusieurs campagnes électorales, il va essayer notamment d'être élu comme président de l'Allemagne, ça fonctionnera pas. Donc quand il est élu, en fait plutôt nommé chancelier en janvier 1933, ça fait déjà là, à peu près 13-14 ans que Hitler est en politique. Par contre, c'est vrai qu'il y a une accélération qui est assez soudaine en raison de la crise économique. Donc, le parti nazi n'est pas un parti qui est si populaire que ça en 1927, 1928. Le parti récolte environ 2-3 % des intentions de vote. C'est très, très peu. Ce qui va accélérer beaucoup la popularité de Hitler et des nazis, c'est la crise économique. Donc, la crise économique touche largement l'Allemagne. Il y a des millions de travailleurs qui se retrouvent sur le chômage. Les gens ont du mal à nourrir leurs enfants, payer leur loyer. Il ne semble pas y avoir là, de débouchés optimistes rapides à l'horizon. Puis la crise économique va faire du parti nazi éventuellement le parti le plus populaire en Allemagne. Donc, quand on a des élections à partir de 1930, on voit le parti nazi là, et devient le parti le plus populaire en Allemagne.
OK, donc vous qualifieriez que Hitler a un peu sauvé l'Allemagne dans la crise économique.
Ben, en fait, c'est l'impression que beaucoup de gens vont avoir. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. Quand Hitler prend le pouvoir en 1933, ça fait déjà à peu près un an que la situation de l'Allemagne s'est améliorée du point de vue économique. Donc aujourd'hui, on sait ça parce qu'on peut regarder les chiffres à tête reposée. Il y a des économistes là, qui peuvent regarder, bon, l'inflation, le taux de chômage, tout ça. Sauf que pour beaucoup d'Allemands, effectivement, c'est l'impression. On se dit Hitler arrive au pouvoir, la situation économique s'améliore, donc effectivement, Hitler va trouver une espèce de recette secrète. Le nazisme, ça fonctionne. Donc, ça va beaucoup, beaucoup aider la popularité de Hitler là, quand il arrive au pouvoir.
En ce qui concerne le Parti national socialiste, quelles sont les idées qui sont au cœur de ce parti?
C'est un parti d'extrême droite qui s'inspire beaucoup du parti fasciste italien. Donc, il y a beaucoup là, de points communs entre les fascistes italiens et les nazis allemands. En ce qui concerne, bon, le nazisme en Allemagne, on a une idéologie qui est extrêmement autoritaire. On cherche à se débarrasser autant que possible de la démocratie. On veut remettre en place un gouvernement qui est assez fort, qui peut imposer sa vision des choses. Aussi, avec l'extrême droite, il y a une haine viscérale de tout ce qui touche à la gauche politique, surtout le communisme à l'extrême gauche. Donc, Hitler va se présenter comme un rempart au communisme en disant notamment aux Allemands, si vous voulez pas qu'il arrive en Allemagne ce qui est arrivé en URSS avec Lénine et les bolcheviks, votez pour moi je vais vous protéger de ça. Également, bon, le parti nazi veut restaurer la grandeur allemande. Donc, on touche beaucoup là, au nationalisme allemand. On trouve que l'Allemagne a été humiliée à la suite de la Première Guerre mondiale. Donc, Hitler promet là, de ramener l'Allemagne à la tête des nations. Également, en termes de politique étrangère, il y a une vision qui est expansionniste. Donc, on souhaite récupérer les territoires qui ont été perdus par l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Et aussi, on promet de réaliser une grande Allemagne. Donc, Hitler va dire tous les gens qui parlent plus ou moins allemand en Europe devraient faire partie d'une grande Allemagne. Donc, par exemple, l'Autriche, des gens qui se trouvent en Pologne, aux Pays-Bas, Danemark, en Tchécoslovaquie. Donc, vraiment pour créer une immense Allemagne. Et finalement, bon, il y a une vision assez xénophobe. Donc, on cherche vraiment là, à créer une espèce d'unité allemande parfaite. Donc, ceux qui seraient considérés comme des étrangers devraient être chassés d'une façon ou d'une autre de la société. Donc, Hitler en parle dans son livre de Mein Kampf dès le début des années 20. Donc, on s'en prend, bon, à des gens pour des raisons politiques, par exemple ceux qui sont à gauche, ceux qui sont trop syndicalistes, trop pacifistes, ceux qui sont communistes, et on s'en prend aussi à des gens pour des critères raciaux. Bon, les Juifs, c'est quand même le groupe là, qui est le plus fameux là, dans la haine des nazis. On peut penser aussi aux Européens de l'Est, on peut penser à différents groupes slaves, aussi certaines minorités religieuses et aussi des marginaux, donc des gens, par exemple, des personnes handicapées, des personnes homosexuelles. Donc vraiment, le but, là, c'est de créer, là, j'emploie ici le mot race parce que c'est le terme que les nazis emploient eux-mêmes, mais c'est de créer une race aryenne, une race allemande parfaite qui aurait été, là, purgée, de gens qui auraient été considérés comme des mauvais Allemands.
En ce qui concerne les Juifs que vous allez nommer, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres raisons que juste le fait qu'ils soient juifs qui expliquent la haine d'Hitler envers eux?
Ben, en fait, c'est pas une invention de Hitler, l'antisémitisme, la haine des Juifs. C'est quelque chose qui était déjà assez répandu en Allemagne, puis je dirais même là, dans le monde en général. Déjà, là, il y avait des idées antisémites bon, qui circulaient en Allemagne dans les années 20-10, 1900. C'est la même chose en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Donc, Hitler va capitaliser sur ces idées-là, mais en tant que tel, il n'invente pas grand-chose. C'était déjà des idées là, qui étaient, je dirais pas courantes, mais qui étaient là présentes à l'époque. À propos des Juifs, déjà au Moyen-Âge, on va avoir tendance à les dépeindre comme une minorité privilégiée. En Europe, les Juifs, on va les installer dans certains quartiers et on va les forcer à occuper certains emplois, notamment le métier de financier, de prêteur d'argent. Donc, c'est vraiment une condition que dans plein de sociétés, on leur impose. Mais éventuellement, on va oublier que ça a été imposé, puis on va s'imaginer que les Juifs sont très à l'argent, hein, que les Juifs sont attirés par l'argent. Ils aiment ça, là, prêter de l'argent des gens, puis après ça, là, vivre des intérêts, puis ruiner des personnes. Bon, on oublie que c'est ça, il y a plusieurs siècles, les Juifs ont dû faire ce type d'emploi-là. Donc, quand Hitler se lance en politique, bien, il va beaucoup taper sur ce clou-là en disant, bon, nous, en Allemagne, on connaît des difficultés, il y a des Allemands qui ne mangent pas à leur faim, il y a la crise économique, et pendant ce temps-là, bon, Hitler va utiliser les préjugés à l'égard des Juifs pour dire, regardez, c'est des gens qui ont des bons emplois, c'est des gens qui mangent bien, ils vivent de la ruine des Allemands. Donc, ce n'est pas une idée que Hitler invente, ça existait déjà, mais il va bien utiliser ça d'un point de vue de propagande.
Ensuite, pensez-vous que la guerre était inévitable une fois qu'Hitler était au pouvoir?
Clairement, bon, il y a une contradiction ici parce que Hitler, quand il prend le pouvoir, il va se présenter comme un homme de paix. Donc, Hitler se promène un peu partout en promettant la paix, en disant, moi, je vais régler les difficultés, je vais régler les problèmes, je vais m'entendre avec un peu tout le monde. En réalité, bon, si on lit le livre de Hitler, Mein Kampf, qui a été écrit en 1924, dans Mein Kampf, c'est très, très clair que Hitler souhaite mener une politique étrangère qui est extrêmement agressive. Donc, restaurer la grandeur allemande, venger l'humiliation qui a été subie aux dépens de la France dans la Première Guerre mondiale, et surtout s'emparer de vastes territoires aux dépens de l'URSS. Donc ça fait partie là, du projet. Donc on voit ça chez Hitler. Et c'est pas simplement quelque chose qui a été écrit dans un livre. C'est-à-dire que quand Hitler se retrouve avec des intimes, quand Hitler se confie, il y a clairement une guerre raciale qui se prépare contre l'URSS. Pourquoi l'URSS? Bon, il y a un point de vue géostratégique, c'est-à-dire que l'URSS a des immenses territoires, des territoires très fertiles. Donc, c'est sûr que si Hitler arrive à une grande Allemagne, ben, il va falloir avoir des terres agricoles pour nourrir tout le monde. Ensuite, il y a des raisons raciales. Donc, dans Mein Kampf, Hitler tape sur différents groupes de population, pas uniquement les Juifs, mais l'ensemble des peuples d'Europe de l'Est. Les Ukrainiens, les Russes, les Lituaniens. Donc, tout ce monde-là, à l'époque, appartient à l'URSS. Donc, Hitler va toujours voir l'URSS comme une espèce de fédération de peuples, donc des peuples qui seraient assez faciles à conquérir. Et aussi, ben, il y a des raisons idéologiques à ça, parce que, bon, à l'époque, l'URSS est dirigée par le communisme. Donc, le communisme, ça s'oppose complètement au national-socialisme. Donc, pour toutes ces raisons-là, Hitler, vraiment, cherche à s'en prendre à l'URSS. Quand la Première Guerre mondiale éclate, bon, au départ, il y a une entente entre l'URSS et l'Allemagne, mais Hitler va déclarer, en fait, va entrer en guerre contre la France et la Grande-Bretagne comme puissance. Mais même à ce moment-là, c'est clair, Hitler en privé avec ses généraux, il dit, OK, mais ça, c'est la première partie de la guerre. Éventuellement, on va se battre contre l'URSS. Donc, on voit Hitler, dès qu'il arrive au pouvoir en 1933, on tombe dans une logique de réarmement. Il y a un programme idéologique qui est mis en place. On se débarrasse de certains généraux qui seraient un peu trop pacifistes. Donc, il y a vraiment là une marche à la guerre qui est mise en place.
Pourquoi, selon vous, l'armée allemande a connu beaucoup de succès au début de la guerre?
Premièrement, parce que l'armée allemande était bien préparée à faire la guerre. Donc, le réarmement allemand a commencé en 1935. Donc, quand on arrive au début de la Deuxième Guerre mondiale en 1939, l'Allemagne peut compter sur des bons sous-marins, des bateaux, des avions modernes. Donc, l'Allemagne est déjà préparée à faire la guerre. Ensuite, deuxièmement, dans un premier temps, les pays qui s'opposent à Hitler ont fait la guerre un peu par dépit. C'est-à-dire jusqu'au dernier moment, la France, la Grande-Bretagne ont souhaité éviter l'affrontement. Les États-Unis font pas partie du conflit encore en 1939. Donc, face à une Allemande qui est préparée à faire la guerre, on a des puissances qui auraient voulu éviter le conflit. Et aussi, sur le terrain, il va y avoir quand même certaines campagnes qui vont être pensées par les stratèges allemands. Donc, on peut penser par exemple au plan von Manstein qui est lancé en mai 1940. Donc, c'est une des opérations militaires les plus réussies de l'histoire. En à peu près 5 ou 6 semaines, l'Allemagne réussit à s'emparer d'à peu près toute l'Europe de l'Ouest.
Parfait. Puis, qu'est-ce qui, selon vous, explique la chute de l'armée?
Différentes raisons. Bon, premièrement, l'armée allemande a manqué de ressources, clairement. Donc aujourd'hui, la plupart des historiens qui sont spécialisés sur l'histoire de l'armée allemande vont dire que la guerre est probablement perdue dès 1941. Dès que Hitler prend la décision d'attaquer l'URSS, la guerre est perdue sur le long terme parce que, bon, l'URSS a beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de soldats potentiels. Si l'Allemagne va se retrouver de plus en plus isolée, donc l'Allemagne a des alliés, mais en beaucoup moins grand nombre que ce que la France, la Grande-Bretagne, l'URSS vont réussir à avoir. Donc, ça fait que plus on avance dans la guerre, plus l'Allemagne va commencer à manquer là, de métaux précieux, va commencer à manquer de carburant, de caoutchouc, plein de ressources qu'on a besoin pour faire la guerre, construire des chars d'assaut, des avions, des choses comme ça. Donc, à la fin de la guerre, dans les derniers mois de la guerre, en fait, l'armée allemande n'a même plus assez de carburant pour faire décoller ses avions, pour faire avancer ses chars d'assaut. Puis aussi, il y a le nombre d'adversaires, c'est-à-dire que plus on avance dans la guerre et plus l'armée allemande s'éparpille un peu partout. La guerre n'est pas finie en Europe de l'Ouest, il y a la Grande-Bretagne qui n'est pas vaincue. Sur le front Ouest, on déclare la guerre à l'URSS. Ensuite, au Sud, on va faire la guerre en Afrique du Nord contre la Grande-Bretagne. Puis comme si ce n'était pas assez, à la fin de 1941, Hitler déclare la guerre aux États-Unis. Donc, ça fait que plus on avance dans la guerre et plus l'armée allemande là, va crouler sous le poids de ses adversaires.
Puis ça, déclarer la guerre aux États-Unis, c'était pas une bonne idée dans le fond.
C'était clairement pas une bonne idée. Bon, le plan de Hitler, il n'y avait pas complètement tort là-dessus. C'est-à-dire que de toute façon, en coulisses, les États-Unis aidaient les Alliés. Donc, les États-Unis prêtaient de l'argent, vendaient du matériel militaire à la Grande-Bretagne notamment. Donc, Hitler disait, on déclare la guerre aux États-Unis, puis dans le fond, on va se battre à visage découvert. Donc, il n'y a pas complètement tort sur le fait que clairement, les États-Unis avaient déjà choisi leur camp, sauf que la déclaration de guerre, mais ça fait que là, les États-Unis vont pas seulement prêter de l'argent, du matériel, ils vont intervenir avec des soldats, avec des avions, des choses comme ça. Donc, ça fait là, une armée de plus à combattre.
Puis, à l'intérieur de l'Allemagne, comment la population vivait-elle la guerre?
C'est une bonne question. Premièrement, il faut mentionner que ce n'est pas tous les Allemands qui étaient nazis. En fait, c'est l'inverse. La majorité des Allemands n'ont jamais été nazis. Dans les dernières élections libres en Allemagne, en 1933, donc juste avant que Hitler là, obtienne la loi sur les pouvoirs, dans le fond, en Allemagne, on se retrouve avec le parti nazi qui obtient plus ou moins 40% des voix. Donc, la majorité des Allemands ont voté pour d'autres partis que le parti nazi. Pour ça, il ne faut pas penser que tous les Allemands ont été des fervents partisans du nazisme. Par contre, le nazisme va prendre soin des Allemands. On s'entend ici, les Allemands qui sont considérés comme des bons Allemands par le gouvernement, donc ça exclut par exemple les Juifs. mais Hitler veut s'assurer une fidélité sans faille de la population allemande. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que le régime va s'assurer de donner des bonnes conditions de travail aux Allemands, des vacances payées, salaires avantageux. On s'assure aussi qu'il y a une société de consommation intéressante. On va favoriser, par exemple, que tous les Allemands salariés puissent s'offrir une petite voiture, puissent avoir un poste de radio. Donc, à l'époque, c'était quand même des produits qui pouvaient difficilement être achetés par un peu tout le monde. Donc, si les Allemands ont accès à ça, ben, ils vont dire, le gouvernement travaille bien pour moi. Puis, il n'y aura pas de rationnement important en Allemagne jusqu'à la toute fin de la guerre. Donc, les Allemands mangent assez bien jusqu'à la toute fin de la guerre. Donc, ça va aider la fidélité jusqu'à la toute fin au régime. Donc, ça fait que oui, il va y avoir des mouvements de résistance en Allemagne, mais c'est toujours des mouvements qui sont isolés. Il n'y aura pas de grand mouvement de l'opinion publique pour renverser le nazisme. La preuve, c'est que, bon, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand finalement la guerre est perdue par l'Allemagne, Berlin est complètement détruite par les Soviétiques, Hitler est caché dans son bunker, on n'a plus de renforts militaires, puis il y a toujours une armée allemande qui fonctionne, il y a toujours une fonction publique qui fonctionne, puis il n'y a pas de grand mouvement d'opposition déterminé à déchoir Hitler de ses fonctions. Donc clairement, là-dessus, les nazis ont été très, très efficaces pour s'assurer la fidélité du peuple allemand, même si, bon, beaucoup de gens n'ont jamais voté pour eux.
En parlant du bunker, pourquoi, selon vous, Hitler a choisi le suicide plutôt que la fuite, par exemple?
Ça va tout à fait dans la mentalité de Hitler. Bon, Hitler, c'est quelqu'un d'extrêmement darwiniste dans sa façon de voir les choses. Donc, Hitler va toujours dire qu'il y a une règle naturelle qui veut que les gens les plus fortes l'emportent sur les gens les plus faibles. Donc, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Hitler va tenir des propos épouvantablement durs à l'égard du peuple allemand, en disant que le peuple allemand est engagé dans une lutte pour déterminer qui avait le droit de l'emporter. Le peuple allemand a failli à la tâche. Les meilleurs sont tombés au combat et les plus faibles, c'est ceux qui restent. Donc, Hitler va tenir des propos extrêmement durs dans les derniers jours de sa vie. Donc, pour lui, en fait, il n'y a aucun plan B Hitler dans son esprit. Hitler, à la toute fin de sa vie, va donner des ordres pour qu'on détruise toutes les infrastructures en Allemagne, qu'il n'y ait plus de gare, qu'il n'y ait plus d'autoroute, qu'il n'y ait plus d'hôpitaux, qu'il n'y ait plus d'usines ou quoi que ce soit. On détruit les villes, on bombarde tout. Donc, l'idée que l'Allemagne puisse survivre au nazisme, ce ne sera jamais quelque chose là, qui va être très concret pour Hitler. Hitler également, bon, il faut comprendre, à la fin de sa vie, c'est aussi quelqu'un qui est très malade. Il a à peine 56 ans, mais il y a des problèmes de santé importants. Probablement qu'il souffre de maladie du Parkinson. C'est quelqu'un qui a été affecté là, par bon, les années de conflit, par le stress de la guerre. C'est bon, c'est quelqu'un visiblement qui, toute sa vie, l'a consacré à sa carrière politique. Donc, c'est pour ça qu'il n'a absolument aucun plan B. Quand il se ramasse isolé dans son bunker, pour Hitler, l'idée de se rendre ou quoi que ce soit, ça fait absolument pas partie là, de ses prérogatives.
Parfait, ça complète mes questions. Merci beaucoup.
Merci.